Donc, dans ma contribution aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que le criminologue John Braithwaite appelle la honte désintégrante. Et j'aimerais montrer que cette honte désintégrante affecte et motive le narrateur des œuvres romanesques ou autobiographiques. C'est un peu un sujet de conflit et j'espère qu'on va éviter ce débat aujourd'hui. Mais donc, je vais simplement dire romanesque aujourd'hui. Donc, par exemple, Miracle de la Rose et Journal du voleur font partie de ce cycle romanesque. Et d'après moi, ils illustrent la façon dont le système pénitentiaire français a conduit Genet à embrasser le destin d'un criminel, identité honteuse que l'écriture lui permettra de revaloriser. Pour commencer, j'aimerais réfléchir avec vous à ce que signifie le sujet de cette journée, réparer la honte. Il m'a semblé que l'on pouvait le comprendre de manière littérale, au sens où la honte contiendrait en elle-même quelque chose de dysfonctionnel, voire d'infonctionnel, qu'il faudrait réparer ou pouvoir réparer. La honte est généralement pensée comme une émotion laide et négative, causant au sujet qui en fait l'expérience une souffrance parfois intense. Mais quelle est la fonction de cette souffrance? Celle-ci est-elle d'ordre narcissique, c'est-à-dire qu'elle toucherait à la relation d'un individu à lui-même, ou bien est-elle d'ordre moral, en tant qu'elle toucherait à la relation d'un individu avec un ou plusieurs autres individus? En d'autres termes, la honte est-elle une émotion que l'on pourrait dire fonctionnelle, au sens où elle assurait une fonction précise au sein d'une société donnée, ou bien étant complètement immorale, comme le soutient le philosophe Ruhen Ogyen, je ne sais pas si je prononce bien son nom et prénom. Donc, si elle est complètement immorale, la honte n'a-t-elle d'autre fonction finalement que d'ajuster l'attention que le honteux se porte à lui-même? Donc, ça, ce sont plus ou moins les termes d'un débat qui oppose de nombreux philosophes, notamment aux États-Unis, le philosophe Bernard Williams, auquel répondra Ruhen Ogyen dans son petit livre La honte est-elle immorale? Et puis, il y a toute une continuité à ce débat. Et il me semble que ce débat montre que la recherche ne s'accorde ni sur une définition fonctionnelle de la honte, ni finalement sur les fonctions sociales ou morales que celle-ci pourrait arborer. Pour tenter de m'insérer dans ce débat, en pensant la honte à la fois comme une émotion dysfonctionnelle et fonctionnelle, je voudrais évoquer les travaux de John Braithwaite, qui est un criminologue australien. Et dans son livre Crime, Shame and Reintegration, qu'il a fait paraître en 1989, Braithwaite soutient que la honte, si elle est bien utilisée, peut représenter un véritable instrument de contrôle social. Pour le criminologue, le recours d'une société à l'humiliation, c'est-à-dire à l'acte de faire honte, d'inspirer de la honte, est tout à fait désirable, en ce sens qu'il permettrait de façonner les consciences de ses citoyens, tout en représentant un filet de sécurité pour le cas où ces consciences échoueraient à se conformer aux normes sociales. En quoi consiste l'humiliation? Selon Braithwaite, celle-ci est un processus social qui consiste à exprimer une désapprobation, avec pour intention ou pour effet, d'inspirer des remords à la personne humiliée, de sorte qu'à travers la honte, l'individu viendrait à comprendre le mal qu'il a commis. Braithwaite identifie deux types d'humiliation qu'une société peut mettre en œuvre en réponse à ses criminels. D'un côté, il y a l'humiliation désintégrante, que Braithwaite nomme aussi stigmatisation, et qui consiste à séparer et à étiqueter les criminels en un groupe marginalisé. Le problème de la stigmatisation, c'est qu'elle n'est accompagnée d'aucun effort pour réconcilier le coupable à sa communauté d'origine. Le coupable est marginalisé et sa déviance devient une manière pour lui de regagner un statut honorable. Ainsi, au lieu de leur inspirer des remords, la stigmatisation a plutôt tendance à augmenter chez les criminels l'attrait de ce que Braithwaite appelle les sous-cultures criminelles, qui paraîtront d'autant plus désirables qu'elles permettent aux criminels de rejeter leurs rejeteurs et de maintenir en cela une forme de respect de soi. De l'autre côté, il y a ce que Braithwaite appelle l'humiliation réintégrante, et qu'il juge supérieure, en ce sens qu'elle s'accompagne d'efforts pour réintégrer le criminel dans une communauté d'individus respectables ou respectant la loi à travers des mots ou des gestes de pardon ou des cérémonies consistant à décertifier le criminel comme déviant. Pour résumer, donc, on pourrait dire qu'il existe, selon le criminologue australien, deux types de honte auxquelles un coupable pourrait être exposé. D'une part, il y a donc la honte réintégrante, que j'appellerais fonctionnelle, puisqu'elle permet la réhabilitation et la réinsertion du criminel dans la société dont il a enfreint les lois. D'autre part, il y a la honte désintégrante, intégrante que j'appellerais dysfonctionnelle puisqu'elle échoue à faire prendre au coupable mesure de son crime et conforte au fond, et le conforte au fond dans son comportement déviant. C'est à la lumière de cette honte dysfonctionnelle que j'aimerais proposer une lecture de ce que j'appelle, de ce que l'on appelle communément l'œuvre romanesque de Genet. Miracle de la rose et Journal du voleur, les deux ouvrages auxquels je m'intéresserai dans ma présentation aujourd'hui, ne viennent-ils pas au fond confirmer les théories que je viens d'exposer? En effet, ces ouvrages nous donnent à voir une sous-culture criminelle, et ce avec un lyrisme tel que l'œuvre genettienne peut de prime abord apparaître comme une apologie du crime et de la culture qui va avec. Bon, il ne s'agit néanmoins pas de n'importe quel crime chez Genet, puisque c'est surtout du vol qu'il chante les louanges. En fait, on pourrait dire que ces romans sont la conséquence de ce que Genet a été confronté dès son plus jeune âge à l'humiliation des intégrantes. Entre parenthèses, pardon pour expliquer mes petits cafouillages, je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé français. J'espère que vous m'excuserez. Donc, baptisé voleur à 10 ans, baptême sur lequel Sartre s'étend tout particulièrement dans Saint-Genet, Genet est envoyé à la colonie de Maitrey lorsqu'il a 15 ans et il y restera jusqu'à ses 18 ans. C'est là que, marginalisé, il rencontre un monde auquel il se sent appartenir ou qui, du moins, finit par lui inspirer un sentiment d'appartenance. On pourrait relire comme ça la biographie de Genet, mais rassurez-vous, mon intention est bien ici de me pencher sur les textes, afin de montrer notamment comment ceci illustre la théorie Braithwaite-Wynn, bon, ça c'est pas facile à prononcer, mais donc illustre la théorie du criminologue australien dont j'ai parlé plus tôt, et montre plus particulièrement la manière dont le système judiciaire français repose finalement sur l'humiliation des intégrantes. La thématisation de la honte chez Genet révèle l'effort qu'il fournit pour esquisser les contours moraux de l'univers carcéral depuis lequel il écrit et sur lequel il écrit, et qu'il dépeint plus particulièrement dans Miracle de la rose. Comme le montre Marie-Claude Hubert, qui je crois était là ce matin, Genet y procède à une enquête sociologique minutieuse, et je cite Marie-Claude Hubert, si minutieuse que Michel Foucault lui demandera de rédiger avec lui dans Surveiller et punir en 1975 le chapitre consacré à Maitrey. Donc à travers cette enquête, l'auteur retranscrit les mœurs et les pratiques de la micro-société que forment les jeunes colons de Maitrey ou les détenus de la centrale de Fresnes. Dans Miracle de la rose, la honte des colons marque rarement leur allégeance au code de la société qui les enferme. Au contraire, la honte indique leur adhésion à un code qui en prend le contre-pied et qui est propre à la micro-société qu'ils forment. Il existe donc, comme le montre Genet, un code moral propre à la vie carcérale et qui établit donc ses propres objets de honte. Par exemple, la société que forment les colons à Maitrey est organisée à la manière d'un réseau de prostitution. Il y a les marles ou les macs au plus haut de l'échelle sociale qui se choisissent des favoris, qu'on appelle des girons, que les macs protègent des assauts souvent sexuels des autres colons. Et ceux qui ne bénéficient pas d'une telle protection, c'est-à-dire qui n'ont pas de Mac attitré, sont considérés comme des prostituées. Et bien qu'en appartenant à personne, ils appartiennent en fait à tous. Et évidemment, la prostitution représente ainsi l'échelon le plus bas de la pyramide sociale dans la micro-société carcérale, indiquant au fond l'état de déshonneur dans lequel est plongé le colon prostitué. À son arrivée dans un nouveau bâtiment de Maitrey, Genet écrit qu'il réussit à éviter les hontes de la prostitution grâce à un acte de bravoure qui attire l'attention d'un mac, Villeroy. À partir de là, le narrateur est protégé et, je cite, « au lieu d'aller de hamac en hamac et de voir tous les mâles ramper la nuit pour venir dans le sien, son pote, son mâle, son social le faisait respecter. » Cependant, quand Villeroy est transféré dans un autre bâtiment, le statut du jeune narrateur change. Abandonné à lui-même et déclassé, celui-ci est forcé de se prostituer. Et je cite encore Genet ici, « Ce fut l'époque de ma honte. Cette honte ne fut jamais éclatante. Jamais on n'en parla devant moi à voix haute, sans doute à cause de la proximité de Villeroy qu'on supposait capable de surgir tout à coup pour défendre son petit mec. Mais cette honte m'enveloppait à la façon dont certaines odeurs émanaient de vous et que les gens font semblant de ne pas sentir. Chaque nuit, les macs, à tour de rôle, passaient dans mon hamac. » Parce qu'elle encourage les autres colons à la retenue, la présence de Villeroy dans un bâtiment voisin permet de contenir la honte du narrateur dans l'espace intime du hamac. Sans protecteur, le scandale de la prostitution à laquelle Genet est forcé de s'adonner aurait éclaté au grand jour. La honte atteint donc son degré maximal lorsqu'elle passe de la sphère privée à la sphère publique, comme c'est le cas pour un personnage de Miracle de la Rose qui s'appelle Winter, jeune colon dont la beauté est telle que tous les mâles se jettent sur lui en même temps. À la souffrance que cause le fait d'être victime d'un viol collectif s'ajoute, je cite, « la honte de l'être presque publiquement ». Sous la plume de Genet, la honte désigne ainsi le statut social du colon, dont le déshonneur éclate surtout par rapport au code de la société carcérale. Pourtant, la honte du narrateur et de ses personnages est aussi réminiscence des codes de la société civile, voire conscience de leur transgression. Par exemple, dans « Miracle de la Rose » encore, Genet décrit la honte qui le saisit au moment de voler. « Je n'eus à vaincre que la honte de la sournoiserie à laquelle nous oblige, fût-ce une seconde, l'acte de voler, d'avoir à me cacher, même l'espace d'un clin d'œil, me faisait rougir. Mais je compris encore que le voleur doit transformer cette sournoiserie nécessaire en facteur de jouissance. Seul obstacle à franchir en vue d'accomplir le geste bref, très bref, invisible surtout, qui fait le voleur méprisable, la honte est au fond le signe d'une certaine allégeance à la morale, morale que Genet aurait d'ailleurs, selon Sartre, intériorisé, puisque Sartre écrit dans Saint Genet, la morale au nom de laquelle on condamne Genet, on la lui a si profondément inculquée qu'elle fait corps avec lui. Bien que sous la plume de Genet, elle n'indique ni scrupule ni repentir, la honte est néanmoins la conséquence de se faire corps avec la morale chez Genet. La honte ravive aussi chez les colons de Maitret le souvenir d'avoir été rejeté, stigmatisé. Lorsque Genet raconte le retour de Diver, jeune biche qui a réussi à s'échapper de la colonie, il met l'emphase sur un cérémonial inhabituel. Diver serre la main de ses camarades. Or, cette façon de se saluer, parce qu'elle est propre aux gaffes, c'est le nom qu'on donne aux gardiens de la colonie, se pratique rarement entre les colons. Et là, je cite Genet. Je crois qu'il faut voir là, de la part des colons, une secrète entente pour écarter tout ce qui rappelle la vie civile et la ferait peut-être regretter. Il faut y voir encore une certaine pudeur qu'éprouve un dur qui veut devenir un homme, à montrer son amitié. Enfin, les colons avaient peut-être quelque honte à accomplir entre eux seuls, un geste habituel aux gaffes, mais d'où les gaffes les excluaient. Ici, Genet explique que le refus de se saluer en se serrant la main n'est pas simplement désir de renverser les règles, il est aussi pudeur virile et honte de l'exclusion qu'il symbolise. Derrière ce qui apparaît comme un mépris de tout ce qui caractérise la vie civile, Genet suggère en fait qu'il y a bien chez les colons conscience honteuse d'être méprisée. D'ailleurs, tous les représentants des institutions qui contribuent à l'incarcération des colons et plus tard des détenus agissent comme le rappel, voire la mise en valeur de leur situation de déréliction sociale. L'auteur de « Miracle de la Rose » en témoigne. J'ai descendu, comme on dit, toutes les couches de l'abjection. Sans doute, il existe les surveillants, les avocats, les flics, mais ils sont là pour donner plus de signification à notre honte, entre parenthèses, et à sa splendeur, en lui opposant leur vie aimable et digne. La présence de ceux qui incarnent l'ordre moral n'a pas pour fonction d'encourager à la réhabilitation des détenus, mais d'accentuer leur honte. Dans ce qui est d'abord présenté comme une opposition, on voit en fait une surenchère. L'amabilité de la vie des fonctionnaires est surpassée par la splendeur de la honte. Dans cet extrait, Genet opère déjà ce que j'appelle la transvaluation de la honte, dont malheureusement je n'aurai que peu de temps pour parler aujourd'hui, mais qui signifie en fait que ce qui est généralement associé à la laideur morale finit par renvoyer à la beauté, à son intensité maximale, et j'espère que c'est quelque chose que je pourrai développer dans mon article. Avec ces romans, Genet propose une analyse sociologique de l'univers carcéral, vue sous le prisme de la honte. Pour l'auteur, la honte du criminel émerge au sein d'une structure sociale dont il a bien assimilé les principes moraux, mais dont les institutions pénitentiaires contribuent finalement à l'éloigner. C'est, il me semble, ce que signale la honte de Genet au moment où, dans « Miracle de la Rose », il prend conscience du fait qu'il est victime d'un déterminisme social. Une conversation avec un camarade de la centrale, ancien colon lui aussi, rappelle au narrateur qu'il n'a pas su éviter le destin prédéterminé que lui réservait son passage par la colonie pénitentiaire. Je cite « J'éprouvais une légère honte quand je dis à Bulcan que j'étais allée aussi à Maitrey. Je n'avais pas su éviter le destin habituel. Je détournais les yeux dans la honte de n'avoir pu, moi, éviter d'en passer par là. » La honte suppose au fond une certaine passivité de l'individu qui subit finalement le sort que lui a réservé la structure collective plutôt qu'il n'embrasse activement une vocation singulière. Et en fait, dans la partie que j'aimerais développer dans mon article, j'aimerais bien montrer en fait que Genet, par l'écriture, finit par renverser cette équation et par faire de la honte une sorte de vocation. Loin d'indiquer une attitude de pénitence, la honte des colons prisonniers suggère en fait la consolidation d'une attitude de rébellion envers la culture dominante. Et d'après le compte-rendu que nous en fait Genet, les institutions pénitentiaires sont paradoxalement le lieu où se cristallise l'identité criminelle. Ainsi, les romans genetiens témoignent-ils du non-sens que représente un système carcéral qui, en stigmatisant les criminels, renforce leur comportement déviant. Et je ne sais pas si j'ai le temps pour peut-être 5 minutes. Est-ce que j'ai le temps pour 5 minutes? Ok. Et donc, dans une troisième partie, qui sera peut-être un peu brève, j'aimerais montrer que les romans de Genet ne constituent pas simplement une enquête sociologique visant à dénoncer finalement les dégâts que causerait l'humiliation des intégrantes. Mais j'aimerais aussi me pencher sur le travail stylistique qu'il réalise autour de la honte et qui lui permet finalement d'ériger la honte en valeur suprême. En cultivant le scandale, voire l'obscénité, ces romans contribuent à transformer la honte en un facteur de jouissance pour le lecteur autant que pour l'auteur. Dans Journal du voleur, la honte devient l'objet d'un chant lyrique et apologétique. Il s'y opère une transvaluation de la honte en orgueil, de sorte que, je cite, « à l'intérieur de sa honte, dans sa propre brave, l'auteur coupable s'enveloppe, il tisse une soie qui est son orgueil. » Pardon, je vous ai dit que je citais, mais en fait j'ai remplacé les pronoms par la première personne par la troisième, donc j'ai modifié cette citation. Donc, « à l'intérieur de ma honte, dans ma propre bave, je m'enveloppe, je tisse une soie qui est mon orgueil. » Par le texte, Genet vient alors réparer l'injustice d'un destin qui lui avait été assigné dès la petite enfance et qu'il n'a pu éviter, celui de la criminalité. Et pour réparer cette honte, Genet nous dit en fait qu'il suffit de s'en parer, comme s'il s'agissait d'un vêtement luxueux. Mais ce processus de transvaluation n'est pas juste autobiographique, il se double aussi d'une visée hagiographique. Comme vous le savez sans doute, Genet confère une place importante à certaines figures de criminels dont il aspire à glorifier la honte. S'inspirant sans doute de la légende dorée, qu'il cite d'ailleurs dans Miracle de la Rose, Genet propose à son tour un livre des martyrs et des saints, reprenant en fait la stratégie du christianisme à ses débuts, christianisme qui s'impose, rappelons-nous, en se dotant de martyrs, de figures dont l'humiliation, la mortification est sanctifiée, glorifiée, divinisée. La honte, dans les romans de Genet, donne un aspect inhumain, quasi divin à ses personnages. Lorsque Genet évoque le moment où Winter se remémore la honte de la prostitution, il note « Longtemps après, quand il me raconta sa vie de jeune Mac à Paris, une délicate émotion qui naissait de sa honte passée faisait un peu flotter sa voix, flotter son visage, lui-même flotter. » Ce flottement généré par le souvenir de la honte enrobe le personnage d'une aura surnaturelle. Le narrateur interrompt cependant son portrait pour révéler son désir d'anoblir la honte de Winter. J'eusse aimé voir ce gamin archiduc dans le royaume surnaturel de nos reflets. Je veux dire, de ce monde plus haut jusqu'où nous plongeons, démoli jusqu'à la honte par les verges, les poitrines, les cuisses et les griffes des marles qui sautaient d'un ciel sublime dans sa caverne. Malgré ici l'usage du conditionnel passé et la référence au surnaturel, donnant l'impression d'un monde irréel, voire impossible, Genet ouvre ici un nouvel horizon pour le lecteur, celui d'une société où la honte finalement représenterait le plus haut grade. L'écriture opère ici un renversement par lequel l'humiliation devient synonyme d'héroïsme. La honte fournit aussi une voie d'accès à des figures quasiment divines. Ainsi, à la fin de Miracle de la Rose, le narrateur cherche à descendre dans la honte afin d'atteindre Arcamon, un criminel condamné à mort et qui est un peu cette figure divine du miracle de la rose. Là encore, ce mouvement vers la honte qui se fait en vue d'atteindre une figure glorieuse est un trait caractéristique du christianisme, dont Michel Zinc nous rappelle que la scène fondatrice, la crucifixion de Jésus, est une scène d'humiliation. D'ailleurs, c'est à cette scène que l'auteur de Miracle de la Rose semble faire allusion lorsqu'il évoque l'attrait qu'a pour lui la mort sanglante. Je cite « L'amour que j'ai de la beauté a tant désiré pour ma vie le couronnement d'une mort violente, sanglante plutôt, et mon aspiration vers une sainteté aux éclats assourdis, empêchant qu'elle fût héroïque selon les hommes, me firent secrètement élire la décapitation qui a pour elle d'être réprouvée, de réprouver la mort qu'elle donne et d'éclairer son bénéficiaire d'une gloire plus sombre et plus douce que le velours à la flamme dansante et légère des grandes funérailles. » Le thème du couronnement, l'allusion à la mort sanglante, la référence à la sainteté réactualise sans doute dans l'esprit du lecteur les termes de la crucifixion. Cependant, c'est de la décapitation qu'il s'agit ici et qui constitue une gloire plus sombre et plus douce que le velours. Donc tout se passe comme si l'auteur venait moderniser finalement cette scène inaugurale du christianisme en honorant une mort pourtant synonyme d'humiliation, de punition pour ses contemporains. Et cette mort, c'est l'exécution capitale. Parce qu'il procède lui aussi au retournement de la faiblesse en puissance, ça c'est une formule de Michel Zinc dans son livre sur l'humiliation, et donc parce qu'il procède au retournement de la honte en gloire, Genet finalement semble lui aussi appliquer ce que l'on appelle la dialectique polynienne et dont malheureusement je ne pourrais pas en dire plus ici. Donc pour conclure, ce renversement axiologique par lequel Genet opère la sacralisation de figures damnées signifie que ce qui est considéré comme laid, ce qui était considéré comme laid au sens de moralement inacceptable, devient chez Genet source de beauté. En transformant des figures honteuses en figures saintes, dont il faudrait cultiver le souvenir, l'œuvre de Genet finit par constituer une sorte de mémorial de la honte, dédié finalement à tous les honteux. Et c'est ainsi que, d'après moi, Genet répare la honte désintégrante, stigmatisante et dysfonctionnelle qu'inflige le système carcéral français. Merci beaucoup.